Midi 30, 13h. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marina.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. À la une, des policiers pris à partie par des manifestants aux abords des Champs-Élysées hier soir. Violente agression filmée, la vidéo sera au cœur de l'enquête que va mener la police judiciaire pour violence volontaire en réunion sur des policiers. Beaucoup de réactions depuis hier soir, Emmanuel Macron veut une réponse judiciaire sévère. Le retour en France du djihadiste Peter Sherif, arrêté à Djibouti, ce proche des frères Kouachi, a été placé en garde à vue dès son arrivée à Roissy ce matin. 222 morts en Indonésie après le tsunami qui a touché les côtes méridionales de Sumatra. 1 500 000 signatures pour la pétition pour le réchauffement climatique. Les dernières courses de Noël et ça se bouscule, vous l'entendrez dans les magasins. Le journal des sports et le PSG restent invincibles avant la trêve de Noël. Enfin la météo avec des records de douceur dans le sud.
Europe 1.
La scène a choqué, c'était hier soir aux abords des Champs-Élysées, 3 policiers pris à partie par une vingtaine d'agresseurs. Le parquet de Paris vient de saisir la police judiciaire pour mener une enquête en flagrance pour violence volontaire en réunion avec armes sur des policiers. L'agression a été filmée et la vidéo sera sûrement une pièce essentielle dans l'enquête qui s'ouvre, Guillaume Bié.
Oui, ces précieuses vidéos, parmi d'autres indices, vont maintenant être analysées par la police judiciaire pour tenter de retrouver les auteurs. Des images où apparaissent des visages. Séquence tournée hier en fin de journée à l'angle des Champs-Élysées et de l'avenue Georges V, entre le célèbre Fouquet's et une boutique Louis Vuitton. On est là dans la partie la plus chic de l'avenue. Alors que des centaines de gilets jaunes descendent à pied les Champs-Élysées au milieu de la circulation, 4 motards de la compagnie de sécurisation parisienne barrent l'avenue Georges V et à un moment, l'un d'eux lance une grenade à main en direction des manifestants, puis il s'éloigne. Ses 3 collègues mettent un peu plus de temps à remonter sur leur moto et là, un jeune homme casqué vient frapper l'un des policiers dans le dos. Un autre l'attaque ensuite au visage. Sa moto tombe, les insultes et les projectiles pleuvent et face à la menace, un policier dégaine son pistolet automatique et met en joue un manifestant. C'est la première fois qu'on assiste à cette situation extrême. Pour autant, la tension ne retombe pas. Un de ses collègues est renversé. Un autre reçoit une trottinette lancée dans son dos. Ils finissent tous par s'enfuir en abandonnant une moto derrière eux qui sera récupérée un peu plus tard.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. C'est depuis le Tchad où il a réveillonné par anticipation avec les militaires français qu'Emmanuel Macron a réagi à ces violences au micro de BFM.
Le ministre de l'Intérieur a suivi les choses tout au long de la journée. J'étais en contact avec lui et il est évident que les réponses, y compris judiciaires, les plus sévères seront apportées. C'est maintenant l'ordre qui doit régner, le calme et la concorde. Notre pays a besoin de ça. Il a besoin de concorde, d'unité, d'un engagement sincère pour de causes collectives fortes. Et il faut apaiser les divisions.
Emmanuel Macron, depuis le Tchad, notait par ailleurs que Éric Drouet, l'une des figures des gilets jaunes interpellées hier, va être convoquée pour être jugée dans les semaines qui viennent pour port d'armes prohibées et participation à un groupement formé en vue de violence ou de dégradation. C'est ce qu'un juge devait lui notifier dans la matinée à Paris. Il devrait être placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès où il comparaîtra libre. Ce 6e samedi de mobilisation des Gilets jaunes a montré un essoufflement du mouvement. Le ministre de l'Intérieur parle, lui, d'un raid tassement, 39 000 manifestants à travers toute la France, contre 66 000 le samedi précédent. Et au-delà de ces journées d'action, la place est désormais à la concertation avec le grand débat qui doit débuter à la mi-janvier. Et ce matin, sur Europe 1, l'archevêque de Paris, Mgr Aupetit, a appelé les fidèles à ouvrir les paroisses et les aumôneries pour dialoguer avec les gilets jaunes.
Sur les ronds-points, les gens se parlent, ils sont heureux de se parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu d'espace de dialogue. On a 13 000 paroisses, on a des lieux d'aumônerie, on a lieux du mouvement, on a des lieux même de lycée, etc. On demande donc à tous les catholiques de bien vouloir ouvrir ces lieux-là pour en faire des lieux de dialogue. Pas de religion, mais de dialogue. Vous savez, les questions qu'on a posées, c'est quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et les formes violentes qu'il a prises. Donc vous voyez, il n'y a rien de religieux là-dedans, c'est simplement pour que les gens puissent parler entre eux, réfléchir en ayant peut-être des conditions de vie différentes, mais voilà, quels sont les lieux où on va pouvoir parler gratuitement, simplement, en faisant des espaces de convivialité.
L'archevêque de Paris, Mgr Aupetit, qui était l'invité du grand rendez-vous européen CNews, Les Échos. C'est donc ce matin que le djihadiste Peter Sherif est arrivé en France placé en garde à vue dès son arrivée à Roissy. C'est le 16 décembre dernier que ce proche des frères Kouachi a été arrêté à Djibouti. Et donc, depuis ce matin, Fabien Randriana Rizoa, il est entendu par les enquêteurs.
Oui, Peter Sherif est entre les mains des services de renseignement français, placé en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ce haut cadre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique est soupçonné d'avoir organisé une filière de djihadistes depuis le Yémen, susceptible d'impliquer Sherif Kouachi, l'un des auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo, avec son frère Saïd. Les trois hommes se connaissent bien. Au début des années 2000, ils ont tous appartenu à la filière djihadiste des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement parisien. À ce stade, Peter Sherif n'est pas poursuivi dans le dossier des attentats de janvier 2015, mais il doit encore purger une peine de 5 ans de prison pour réseau de recrutement djihadiste. La condamnation date de 2011, mais le terroriste avait pris la fuite au terme de son procès.
Fabien Randriana Rizoa, à l'étranger, 222 morts. C'est le dernier bilan après le tsunami qui a touché l'Indonésie. Tsunami provoqué par l'éruption d'un volcan. Selon les autorités locales, des centaines de bâtiments ont été rasés par la vague qui a déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra. On fait une pause et dans un instant, c'est la course pour les derniers cadeaux de Noël.
Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
La suite du journal de la mi-journée avec vous, Fabienne Lemoyle.
Et je ne sais pas, Marina, si vous avez déjà fait toutes vos commandes au
pas
Père
encore,
Noël.
Pas encore.
Alors, il est sur temps. C'est la dernière ligne droite, en tout cas pour les achats. Vous êtes nombreux à les faire à la dernière minute et ça se bouscule. Vous me le confirmez, Marguerite Lefebvre, dans les magasins du centre commercial Beaugrenelle où vous êtes.
Ah oui, je vous le confirme, on assiste à la même scène depuis ce matin, des gens qui rentrent dans les magasins les mains vides et qui en ressortent les bras chargés de paquets, souvent le pas déterminé, on n'est pas là pour flâner aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Valériane avait coché cette matinée depuis longtemps.
Quand est-ce que j'ai commencé la semaine dernière? Ça va, j'ai pas trop de retard, ça va. Et là c'est les derniers, ça y est. Justement, je me suis levée tôt, je suis pour arriver dans les magasins à la première heure, effectivement, toute cette matinée c'était prévu pour les cadeaux. Là c'est... D'habitude je m'y prends plus tôt, mais là cette année, j'ai traîné.
Traîner un peu pour Richard, c'est visiblement une habitude, mais pour ce père de famille, aucun stress, tout est sous contrôle.
Même encore un petit peu de marche, parce qu'il me reste encore demain pour finir, donc un timing impeccable. Là il reste pour les grands, pour les adultes maintenant, donc ça c'est un peu plus compliqué.
Et ça c'est pour la fin.
Et ça c'est pour la fin, le meilleur pour la fin. Pour une fois j'ai une excuse pour les faire un peu tard. Donc cette année c'est l'excuse des gilets jaunes.
Les gilets jaunes qui ont en effet provoqué la fermeture de nombreux magasins les week-ends de décembre. Résultat, on attend énormément de monde ici toute la journée. La plupart des magasins ont prévu de rester ouverts jusqu'à ce soir 20h.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. On vous le disait vendredi, 2018 est l'année la plus chaude en France depuis le début du XXe siècle quand on a commencé à faire des relevés de température. Ce qui montre l'urgence à agir. Ce qui explique sûrement le succès de la pétition lancée par 4 ONG qui ont annoncé cette semaine qu'elles allaient saisir la justice pour dénoncer l'inaction de l'État dans la lutte contre le réchauffement climatique. Déjà 1 500 000 signatures, Hélène Terzian.
Elle ne s'attendait pas à une telle vague citoyenne, à autant de partages sur les réseaux sociaux. Les ONG à l'origine de cet appel sont aujourd'hui soutenues par près d'1 500 000 personnes pour pousser l'État à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Un succès fulgurant salué par Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France.
On est très surpris, mais on est aussi très réconfortés par ce soutien citoyen d'une force comme on ne l'a jamais vu. À la fois le nombre de signatures et la rapidité sont tous les deux historiques. Notre volonté, c'était d'être en phase avec cette vague citoyenne qui considère qu'elle s'est mobilisée de longue date dans des marches, que nos ONG, elles, ont participé à des négociations, dont celle qui a conclu l'accord de Paris sur le climat, mais que 3 ans après, on voit les émissions de gaz à effet de serre repartir à la hausse et qu'il faut donc passer à un autre mode d'action pour contraindre l'État à agir.
Le gouvernement a 2 mois pour répondre à la requête préalable adressée par les ONG, faute de quoi elle planifie un recours devant le tribunal administratif de Paris, une première à l'échelle française, mais qui a fait ses preuves à l'étranger, aux Pays-Bas. La justice a contraint le gouvernement d'agir pour réduire de 25% ses émissions de gaz à effet de serre.
Hélène Terzian.
Le journal des sports.
Avec Cyril de la Morinerie. Bonjour Cyril.
Bonjour Fabienne.
On commence avec du football. 19e journée de Ligue 1, 9 matchs hier soir et le PSG qui termine en beauté l'année 2018.
Et Paris finit invaincu de la phase aller. Les Parisiens s'imposent 1-0 contre Nantes. 1-0, donc but inscrit par Kylian Mbappé qui prend seul la tête du classement des meilleurs buteurs avec 13 réalisations. Des Parisiens qui mettent fin donc à une série de 2 matchs nuls et qui peuvent être satisfaits de la première partie de saison, confirme leur entraîneur Thomas Tuchel.
Quand tu regardes le résultat isolé, c'est presque parfait. Et aussi pendant le match ici à Parc des Princes, maintenant je suis très content parce qu'on peut voir le progrès de l'équipe et on peut sentir l'énergie de l'équipe. Et ça, c'est une bonne situation pour améliorer dans l'année prochaine.
Thomas Tuchel avec Julien Froment.
Moins de réussite en revanche pour le dauphin du PSG qui s'est pris les pieds dans le tapis.
C'est ça, défaite.
Avec un ballon de foot, ça va pas être évident.
Défaite de Lille 2-1 contre Toulouse, c'est une expression évidemment. Avec 2 pénaltys concédés, le LOSC conserve malgré tout sa 2e place avec 2 points d'avance sur Lyon. Les Lyonnais ont décroché le nul à Montpellier 1 partout. Saint-Etienne s'impose contre Dijon 3-0. Carton de Rennes 4-0 contre Nîmes. Strasbourg monte à la 7e place de Ligue 1 après son succès contre Nice 2-0. Le Stade de Reims enfin décroche un nul mérité contre Caen. De partout.
Et du côté du Rocher à Monaco, c'est l'inquiétude de Monaco, de nouveau battu hier soir.
Oui, et battu par le dernier Guingamp, 2-0, qui plus est à domicile. Pas de miracle, malgré l'arrivée d'un nouvel adjoint, Franck Passy. Monaco, 2e l'an passé, méconnaissable, 13 points seulement en 18 matchs. Il faut tout changer, reconnaît le vice-président Vadim Vassiliev.
C'est une très mauvaise soirée, à l'image de la première partie de la saison. Le mal est profond, moi je suis conscient, c'est bon qu'on a la trêve pour bien analyser les choses. D'abord il faut récupérer les blessés, deuxièmement il faut se renforcer mais fortement, et troisièmement il faut rester qu'avec les joueurs qui l'ont envie. Si on arrive à faire les 3 choses là, nous allons y arriver.
Vadim Vassiliev avec Frédéric Hélion.
Enfin l'OM qui limite la casse.
Marseille fait illusion en arrachant le nul 1 partout à Angers. Égalisation signée Bounassar, entrée en jeu en seconde période. Même si Rudy Garcia n'a pas encore trouvé la bonne formule, l'entraîneur a aimé la réaction de ses joueurs.
C'est bien de voir l'Olympique de Marseille réagir comme ça en deuxième période et enfin mettre ce qu'il faut sur le terrain dans tous les domaines. Défensif, au niveau de l'agressivité, de la cohésion et puis du jeu. C'est bien d'avoir vu les joueurs faire ça en deuxième période, revenir et puis tout faire pour l'emporter parce que voilà, c'est là-dessus qu'on doit construire. On sait qu'on a un déficit de confiance. Il va falloir reprendre du bon pied, comme on dit, et ce sera important d'enchaîner les matchs et d'être prêt pour les matchs.
Et Rudy Garcia avec Loïc Folliot, le Marseillais Morgan Sanson, auteur de 3 buts et 3 passes décisives, a prolongé son contrat jusqu'en 2022. Alors il reste un dernier match. Cet après-midi à 17h, Bordeaux reçoit Amiens.
Merci
un mot
beaucoup.
À l'étranger pour tout de même vous parler du prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions. Manchester United va mieux, le club désormais entraîné par le Norvégien Solskjær a battu Cardiff 5-1. Paul Pogba a réussi 2 passes décisives, le Français Martial a marqué enfin du biathlon. Le Quentin Fillon-Maillet termine 2e de la Mastart, c'était il y a quelques minutes en République Tchèque. Nouvelle déception pour Martin Fourcade qui termine loin du podium.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche. Et qu'est-ce qu'il fait doux, Valérie Darmon, et vous nous dites que ça va persister.
Oui, et même demain, Fabienne. Hier, nous avons battu des records de douceur dans le sud et nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux records aujourd'hui dans le sud-ouest ou encore le sud-est. Météo France annonce 20 degrés à Perpignan, 18 à Tarbes ou encore à Montpellier, 17 à Saint-Girons et Carcassonne, 16 degrés à Nice, à Bordeaux et à Avignon, 15 en région parisienne, 14 à Évreux, à Châteauroux, Saint-Étienne et Lyon, 13 à Charleville et 12 à Bourg-en-Bresse. En revanche, le ciel, c'est pas tout à fait ça, parce que si vous habitez entre la Normandie et la Franche-Comté, en passant par Paris, il va pleuvoir tout l'après-midi, ou quand il ne pleut pas, de toute façon, il fait très gris. Sous cette dégradation, le vent souffle en plus jusqu'à 60 km/h de la Bretagne à la Normandie, et puis ensuite du bassin parisien à la région Grand Est. Ce qui contraste avec le sud, de l'Aquitaine aux Pyrénées-Orientales et du Languedoc-Roussillon à la région PACA, sans oublier la Corse, où là, c'est grand beau.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Vous serez peut-être déjà en cuisine demain à cette heure-là pour commencer à préparer le repas du réveillon. Et si on changeait du traditionnel chapon de Noël, Fred Cheneau qui a parcouru le monde entier pour découvrir les cuisines d'ailleurs pour Canal+, c'est mon invité dans un instant.
Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Le journal de la mi-journée continue avec vous, Fabienne Lemoyle, et votre invitée qui va nous parler cuisine.
Dernière ligne droite avant le réveillon et pour vous faire voyager à travers les traditions culinaires du monde entier et pourquoi pas vous donner des idées pour échapper au traditionnel chapon, j'ai le plaisir d'accueillir le Globe Cooker Fred Chesneau. Bonjour.
Bonjour Fabienne.
Alors j'ai dit Globe Cooker pour Globetrotter des cuisines du monde entier que vous nous faites découvrir depuis plusieurs années sur Canal+, depuis que vous avez troqué votre costume de cadre dynamique pour ouvrir une école de cuisine. Vous me le disiez, c'était il y a 15 ans déjà. Et vous avez aussi ouvert un restaurant en Grèce, ça c'était il y a 2 ans.
Absolument.
Déjà ce repas de Noël, Fred Chesneau, on le retrouve dans le monde entier?
Qui dit Noël, déjà, ça concerne la chrétienté. Et alors, c'est assez amusant quand on se penche un peu sur le berceau, entre guillemets, du repas de Noël. C'est qu'à la fois, il y a beaucoup de disparités et beaucoup de points communs. On a toujours l'impression, en étant français, que le repas de Noël, c'est à chaque fois des huîtres, du saumon...
Volaille.
La volaille farcie et bien sûr, la sempiternelle bûche. En fait, bah non, ça n'est qu'une vision franco-française. Parce que si vous prenez l'exemple des Libanais... Alors, les Libanais, on va retrouver la dinde. Mais elle va être farcie avec quoi? Avec des abricots, avec de la poudre d'amande, avec des pistaches, voilà, tout ce qui qualifie, je dirais, le Moyen-Orient. Au Mexique, alors, faut pas quand même oublier, attendez, la dinde est mexicaine avant tout. Hein.
Ah.
Ah bah, la dinde et le cacao. Hein.
Ah, le cacao, je savais, mais
le
la
cacao
dinde.
Et la dinde, voilà, la dinde, c'est avant tout mexicain. Donc, on croit toujours que, vous voyez, comme la pomme de terre, on oublie que c'est péruvien. Donc, finalement, notre repas de Noël à nous en France,
il est déjà très international.
Du monde, bien entendu. La sempiternelle bûche, quand on est au Danemark, en fait, on appelle ça le dessert de Noël, c'est le riz à l'amande. Alors, ça, c'est une consonance française et plein de Danois sont persuadés que c'est un dessert français.
Ah.
En fait, pas du tout.
Et ça ressemble à quoi?
Alors, c'est en fait une sorte de riz au lait brassé à la chantilly et servi avec des cerises à l'eau de vie chaude. Et à l'intérieur, on glisse une petite fève qui n'est autre qu'une amande. Et bien sûr, celui qui tombe sur cette fève reçoit un cadeau.
Est-ce qu'il y a la notion de partage, justement, avec
toujours,
ce repas de Noël?
Toujours, toujours, toujours. C'est ça, vraiment, le dénominateur commun de...
Plus que le menu, finalement.
Ah, mais clairement... Famille, amis, tous se réunir autour d'une même table. C'est aussi consacrer du temps en cuisine. Mais consacrer du temps en cuisine, c'est consacrer du temps aux amis qu'on aime bien. C'est-à-dire faire preuve d'empathie, se mettre dans le palais de ceux qui vont bientôt arriver. Et ça, je pense que c'est vraiment la caractéristique des grands repas, des grands menus, tels que peut l'être Noël.
Qu'est-ce qui vous a surpris, vous qui avez voyagé dans le monde entier pour un repas de Noël? Je crois que c'est les Philippines.
Alors exactement, j'ai eu cette chance de fêter Noël sur une petite île planquée dans le fin fond de l'archipel de Palawan. Et là, alors bizarrement, le plat sur lequel tout le monde fantasmait là-bas sur cette île, c'était de pouvoir manger des spaghettis à la sauce tomate.
Surprenant.
C'est là toute la relativité finalement du raffinement des mets qu'on va pouvoir déguster lors d'un tel repas. Et souvent on se dit, pour un repas de Noël, il faut que ce soit cher, rare. Et finalement, tout peut être basé sur des choses très simples.
Fred Chesneau, cette année pour Canal+, vous êtes allé à la découverte des cuisines du monde entier, mais en France.
Absolument, et notamment à Paris. Et le truc, en fait, c'est que pendant 12 ans, moi, j'ai exploré le monde entier. J'ai vraiment quadrillé la planète avec comme leitmotiv d'aller à la rencontre des gens. Tout ça par le prisme de la cuisine. J'ai gardé cette même recette, mais je me suis concentré sur un terrain de jeu un peu plus petit, mais pas moins intéressant, Paris et sa région parisienne. Et l'idée, c'est d'explorer les communautés étrangères qui façonnent le paysage parisien. Il faut noter une chose, c'est que Paris est la seule capitale au monde qui réunit le plus grand nombre de communautés étrangères. On en dénombre plus de 100. Et là, l'idée, c'est de jouer la carte de l'immersion. Donc, c'est pas seulement faire
donc
un tour de mes gargotes.
Donc, vous avez exploré la communauté libanaise, espagnole...
Vietnamienne, danoise, il y en a...
Alors, justement, les communautés étrangères installées en France, est-ce qu'elles ont apporté leurs traditions ou est-ce qu'elles les ont mis au goût, justement, alors, du traditionnel réveillon français?
Je vais vous dire, c'est plus qu'importé, c'est vraiment un acte de fierté. C'est-à-dire que, et ça devient même parfois un acte politique. Je me suis aperçu d'une chose, c'est que, quand on parle de communauté étrangère en France, on touche tout de suite du doigt le problème de l'immigration et de l'intégration. Et il se trouve que le premier sésame pour justement s'intégrer, pour montrer sa culture, c'est la cuisine. Quand on a tout perdu, et je prends le cas par exemple de Syriens et d'Irakiens chez qui je suis allé il y a un an pour voir où ils en étaient après être arrivés 6 mois plus tôt en France, et j'ai noté le fait que ces gens-là avaient un besoin viscéral de renouer avec leur culture gastronomique. Non seulement pour se mettre du baume au cœur par rapport à, voilà, au mal du pays, mais aussi pour essayer de...
Pour garder leur identité.
Garder leur identité. Et en fait, la cuisine, c'est le seul moyen pour être fier de leur identité, de partager. Et je me suis aperçu que quand on a tout perdu, il nous reste une seule chose, c'est les recettes. leur recette. Et parfois, de prendre un bus pour aller dans une épicerie planquée et de trouver les ingrédients qui leur permettraient de mettre en valeur et en pratique toute leur cuisine, de manière à partager avec les gens qui les avaient accueillis. Quand je dis que c'est un acte politique, je pense que les recettes de ces gens-là sont encore beaucoup plus intègres que ne peut l'être la recette en elle-même au pays. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré une Danoise, elle a à peu près 70 ans, ça fait 50 ans qu'elle est en France. Alors un peu le cliché, jeune fille au pair, qui est tombée amoureuse d'un Français, et puis qui fait
est restée
en France. Et elle me dit, tu vois Fred, les smørrebrød, c'est les fameuses petites tapas scandinaves, les meilleurs smørrebrød, eh bien tu les manges en France. Parce que je me suis aperçu que quand je repartais au Danemark, il y avait une dérive. Tout immigré va faire en sorte de respecter à la lettre la recette. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, si on veut manger le mieux syrien, irakien, libanais, danois, mexicain, bah finalement c'est
presque
au travers
en France.
De la communauté qui s'est installée ici en France.
Je vais terminer avec ça, Fred Chéneau. Votre Noël à vous, je le disais, vous avez ouvert il y a 2 ans un restaurant en Grèce. Vous allez passer où Noël et vous allez cuisiner quoi?
Alors, si vous voulez, il se trouve que je passe un peu la moitié de l'année en Grèce, c'est un peu mon pays d'accueil. Je vais pas me faire un Noël à la grecque parce que
c'est là, quoi un Noël à la grecque d'ailleurs?
Alors, le Noël à la grecque, c'est axé sur des légumes, c'est de l'agneau, c'est voilà, on est très dans le bassin méditerranéen. Alors justement, moi, je me mets dans la peau d'un immigré. Alors, c'est de l'immigration volontaire en ce qui me concerne, mais j'ai vraiment envie de faire découvrir à mes amis grecs ce que c'est qu'un Noël traditionnel français. Alors là, ok, on va retomber dans le cliché. Et là, alors, je vais pas arriver avec mes huîtres, parce que je vais pas prendre l'avion avec mes huîtres ni avec ma dinde. J'ai envie de leur faire un bon petit foie gras. J'ai envie de faire, alors non pas un chapon parce qu'il y a pas de chapon en Grèce, mais pourquoi pas des petites cailles farcies au marron.
Puis voilà, et
la petite bûche, parce que quand même, il y a des superbes amandes Grèce, donc j'aurais vraiment tort de me priver de tout ça.
Et un dernier conseil à nos auditeurs pour ce réveillon?
Moi, je vais vous donner un conseil. Surtout, arrêtons de se mettre la pression, en tout cas, arrêtons de se dire « Oh là là, il faut que je sois au top, il faut que je sois parfait. » Le mieux est l'ennemi du bien, donc franchement, faites selon vos moyens, selon à la fois financiers et techniques. Dites-vous que rien n'est grave, ça n'est que de la cuisine et le plus important, c'est de partager.
Merci beaucoup Fred Chéneau d'avoir partagé avec nous ces idées de réveillon. Bonne fête à vous et je rappelle qu'on vous retrouve sur Canal+ pour la saison 2 des Paris du Globe Cooker. À partir de 13h, vous le savez, vous ouvrez les carnets du monde. C'est avec Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie, au programme aujourd'hui.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Programme éclectique aujourd'hui. On va passer de la folie des concours de Miss en Thaïlande. Il y en a partout, tout le temps et pour tout le monde. À la crise argentine, l'économie est en berne là-bas et les Argentins sont abonnés au système D au quotidien. Ça passe notamment par le troc. Les clubs de troc se multiplient. Enfin, le fondateur de la communauté de Sant'Egidio sera notre invité. Vous savez, Sant'Egidio, c'est cette très grosse ONG catholique dont on parle souvent pour le prix Nobel de la paix. Elle fête ses 50 ans.
Bien noté, Sophie. Merci beaucoup.